qu'on déguste vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons d'Or à Bastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour ! Bonjour Philippe Kuhn, merci d'être là.
Et bonjour.
On est à l'antenne, ça y est, je dis ça parce que voilà, les petites lumières rouges.
On discute déjà avant, c'est le bordel.
Se sont allumées, monsieur, dame, dans les studios, bien au sec pour cette émission où nous allons déguster des vins naturels de Philippe et Sandrine Kuhn qui habitent Vaour. Si je dis qui habite Vaour, c'est parce que je ne sais pas comment appeler les habitants de Vaour, à part les Vauriens, mais...
Les Vaouriers.
Voilà, je ne sais pas.
Les Vaouriers, il me semble, selon la... Bon.
Merci d'être là, en tout cas. Bonjour, selon Georges.
Bonjour.
On écoutera du jazz aujourd'hui.
On écoutera Lavelle, la chanteuse de spiritual de jazz.
D'accord. Et Pascal Olivier, bonjour.
Salut à tous.
Aurélien réalise la technique de cette émission. On a une pensée pour Christophe, qui est en route pour les tempêtes de neige pyrénéennes. Donc, c'est un vin que l'on déguste assez régulièrement dans quelques restaurants. Où c'est qu'on le déguste, Pascal Olivier ? Chez Pierre Cantegrel.
On en voit au Faubourg 73. On en trouve,
Pierre nous suit bien, comme il suit un peu les artisans. Voilà. Merci
les
à Pierre.
Les artisans.
Voilà.
Chez Coxibio aussi, on le
Coxibio,
trouve.
Coxibio, on en a. Je crois qu'on en a aussi. Chez Plaisir du Vin, peut-être ?
Plaisir du Vin, on le goûte.
On le goûte.
Voilà.
On le vend pas, mais on
les volumes, voilà, les volumes ne permettent pas toujours de peut-être de discuter de plus en avant de ça, parce que pour l'instant, voilà, on n'en est encore pas là.
Alors, des petits volumes. Voilà. On expliquera ça, on en parlera.
On va vous expliquer que le vin qu'on va déguster ce soir est un vin un petit peu particulier, un petit peu exceptionnel.
Mais néanmoins bon.
Ah, voilà. Attention, c'est pour un public averti parce que parfois le vin naturel, ça peut faire peur. Alors il paraît qu'en plus aujourd'hui, on est dans un jour.
On est dans un jour fruit. En bonne phase lunaire. En fruit deux étoiles.
Fruits
de l'huile montante, donc ça devrait goûter, puisque les vins sont naturels, sont plus sensibles que les autres, souvent bloqués par une chimiothérapie qui permet pas au vin de s'exprimer.
Quoi. Tue le vin, disons les choses.
On va dire, il y a les mollo pour le départ. Hein,
on va y aller mollo pour le départ. On démarre en musique. C'est qu'est-ce qu'on déguste. On a sur la table quelques bouteilles de la gamme de Philippe Kuhn. Alors on va voir ça dans un instant. On va donner les noms. On a aussi un petit pâté. On a un petit jarret. Ça y est, l'autre il mord dedans. On a un super pain Veracois de chez Carmona et on a sur les platines Aurélien.
Flume, qu'on retrouvera prochainement à Marmande sur le festival Garo Rock.
I got to keep holding on.
Holding On, le producteur australien, sera donc à Marmande au 30 juin prochain sur le festival Garrock.
Alors, qu'est-ce qu'on déguste? Avec comme invité aujourd'hui Philippe Kuhn et Sandrine Kuhn, donc vigneron en vin naturel. Alors un petit peu, ça c'est déjà une chose un peu particulière, mais on va voir que vous êtes des vignerons atypiques, ne serait-ce que par le côté éclaté de vos vignes. Hein, je ne veux pas dire que vos vignes soient éclatées, mais vous en avez un petit peu partout. Vous allez donc devoir nous raconter votre parcours dans le détail pour qu'on puisse comprendre aujourd'hui ce que l'on déguste, ce que l'on boit, puisqu'on va boire du On se couche plus, on va boire du GBS. Qu'est-ce qu'on déguste?
Exprime bien la situation.
D'accord. Du No Limit.
Le GPS.
Du No Limit et du...
Et le Vocifère.
Et le Vocifère.
Et après, on a bu.
Il y a une petite histoire.
Il y a une petite histoire pour chacun, j'espère.
Il y a une petite histoire. Ah, on a bu le verre du vin, là. C'est pour ça qu'il avait évolué.
On a bu le verre
du vin.
Donc,
le verre du vin a fini par buller contre toute attente. Puisque les vins n'étant pas bloqués, ils évoluent. Ça faisait un moment que j'avais pu goûter ça. Et donc, avec surprise, on a eu une petite effervescence qui évoquait à bourru, selon monsieur, qui n'était pas prévue au programme, ce qui est plutôt rassurant. Puisque voilà.
Alors bon, on va revenir dessus parce que il faut que les auditeurs comprennent ce qu'on vit.
Voilà.
C'est quoi votre parcours? Au départ, vous n'êtes pas vigneron, vous n'êtes pas de la terre. Là.
Non, pas du tout. Moi, j'ai fait des études brillantes universitaires. Non, je déconne, mais j'étais pas du tout destiné à ce métier. Et un peu par hasard, à la dérive des recherches de petits boulots quand on est étudiant, je suis arrivé dans le sud-ouest pour faire une saison de ramassage de fruits dans le Tarn-et-Garonne, sur une petite exploitation qui aujourd'hui ne peut plus exister avec la conjoncture actuelle. Donc le résumé, c'est qu'il y a très peu d'hectares. Il y a 10 hectares 0,4 de SAU, comme on dit. Un peu de vigne et un petit verger, donc à l'époque il fallait vraiment faire feu de tout bois, et je rends hommage à Pierrette qui a pu tenir cette ferme pendant des années en se défonçant.
Parce que toi tu venais d'où?
Moi j'arrive de Lorraine, Alsace, quoi. Voilà. D'où ma passion pour les blancs aussi, puisque évidemment en Alsace le blanc est roi. Et donc dans le sud-ouest c'était un peu pauvre. Enfin dans les années 90 il y avait pas beaucoup de monde qui faisait du blanc. Aujourd'hui c'est un peu plus.
Donc c'est dans les années 90 que t'es arrivé.
Moi je suis arrivé précisément en 1989, une excellente année.
Mais t'es arrivé en tant que vigneron en 89.
Ah non, je suis arrivé en tant que
ramasseur de fruits,
en tant que ramasseur ouvrier agricole, voilà, profitant des longues vacances. On sait très bien qu'à l'université on a beaucoup de temps. Et voilà, donc voilà. Et bon ben un flash sur la ferme, sur les animaux, il y avait un organisme agricole. Comme je le conçois, c'est-à-dire la seule possibilité dont on s'est bien éloigné, l'exploitation polyculture élevage, quoi, assurant le cycle, voilà.
C'était où ça?
Le fumier à Saint-Christophe, précisément.
En Tarn-et-Garonne.
Nous buvons, en Tarn-et-Garonne, entre Molière et Mirabel.
Entre Molière et Mirabel.
On va dire les meilleurs coteaux, parmi les meilleurs coteaux fruitiers de France. Il n'y a pas de chauvinisme de là-dedans, de toute façon, je suis pas né ici. C'est pas le problème. Mais enfin, je considère que les fruits, c'est vraiment un excellent terroir, en argile au calcaire, pour l'expression de tout fruit, y compris donc le raisin.
Donc en 89,
tu arrives, on déboule, et je décide de rester et de continuer.
De reprendre la ferme ou de...
Alors reprendre la ferme, on reprend pas une ferme comme ça. Donc je décide de rester sur place et de tenter une aventure agricole tout en continuant un peu mes études. Et évidemment, on va dire l'agricole prend le pas, puisque c'est un travail quand même absorbant, qui demande beaucoup de passion, et on se laisse emporter.
Mais pour devenir soi-même paysan, il faut à un moment acheter des terres ou je sais pas, ou enfin
travailler. Louer, non.
Alors là, je suis en location, évidemment. Le problème de l'accès à la propriété quand on n'est pas fils de paysan et qu'on n'est pas fortuné est très compliqué à l'heure actuelle.
Mais t'as fait des études. T'as fait des études
pour
faire de
l'agriculture. J'ai qu'un certificat de spécialisation en agrobiologie, qui était le seul établissement anthroposophique de France à Beaujeu, qui était le domaine de Malval, tenu par deux remarquables maîtres, Suzanne et Victor Michon, qui avaient une formidable vision des choses sur la biodynamie. C'est dommage que cette formation n'existe plus, elle devrait être obligatoire pour tout citoyen français.
Normalement constitué
pour avoir une approche et une compréhension de la vie. Malheureusement, cette école n'a pas été subventionnée, n'a pas été soutenue par l'État, et l'anthroposophie en France a été souvent refoulée comme un peu une chasse aux sorcières, donc Rudolf Steiner et tout ça. On est très en retard sur les pays limitrophes.
Bien Suisse, que ça prenne.
Suisse, Allemagne, voilà. Enfin, la France, c'est toujours comme ça, hein. C'est long.
On traîne les pieds.
Donc, mais vous faites du vin, mon cher ami, depuis cette époque-là.
Depuis 1989.
Depuis 1989, alors, on faisait vin naturel et port noir.
Alors, port noir.
Et voilà. Blé, et haricots, voilà. Et pois chiches.
Alors après, il y a les cultures en céréales et en oléagineux. Enfin, une rotation normale pour l'agriculture biologique, puisque nous, évidemment, on essaye de faire une rotation à peu près cohérente, pour permettre au sol de se reconstituer. Et voilà, vu qu'on n'a pas, nous, la dope pour faire pousser les plantes.
Mais les débouchés, c'est qui vous vendez ce que vous faites pousser au départ, là?
Alors, ce qu'on fait pousser au départ, avant... Donc, moi, j'ai arrêté l'élevage depuis l'année dernière pour des raisons conjoncturelles, parce que, bon, j'avais plus d'emplacement vraiment pour mon élevage.
Donc, il y a du porc noir, hein, c'est le...
On a fait du porc noir gascon. Enfin, on a un peu tout fait, hein. On a commencé notre carrière par du canard gras. On était les seuls à faire du canard gras en bio, bien que la mention ne pouvait pas être donnée, puisque c'était le gavage qui était la notion de gavage au niveau éthique. Ouais. Ne pouvait pas rentrer dans un cahier des charges bio, tout comme le tabac. Puisque en bio, ce qui peut donner la mort, on ne peut pas être certifié en agriculture biologique. Mais à l'époque, Philippe Audard et Biosol, qu'on s'est rencontrés, on a dit, il n'y a pas de raison, on te connaît, on sait comment tu travailles, on rentre nos produits, on rentre tes produits sans être labellisé forcément AB, mais voilà, on indique la méthode de travail, quoi.
D'accord.
D'ailleurs, un aparté, oui, aussi là-dessus, sur la certification, dont je m'éloigne de plus en plus, puisque cette certification a un coût, donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun...
Non, mais elle rime plus à rien.
Ça ne rime plus à rien. En France, les pollueurs devaient être les payeurs. Ils ne sont pas les payeurs. Et ce sont les paysans bio à qui qu'on rackette pour se faire contrôler. Je veux dire, pour croire ce qu'on dit, il faut payer quelqu'un. Ce qui est quand même énorme.
Après, quand on fait du circuit super court et de la petite production comme vous, on est directement ses clients, donc il y a peut-être moins besoin d'y mettre un label dessus. Allez, je vais le finir celui-là quand même. T'as vu ce vin, c'est un vin à bulle. Qu'est-ce que c'est que ce vin, Pascal Olivier? Est-ce que tu peux me présenter ce
vin? Du vin, c'est la base de la bulle.
Voilà, donc c'est un... Il rêve de vin au verre, vin au verre.
On peut lire le poème, voilà. Écrit par Hervé Magnifique.
Sous le vent d'hiver, enviré dans la vigne, j'avise ravi la dérive des larves, le verre coquin, c'est l'avarie, vive le vent du verre sur ma butte en dévers. J'ovationne l'avril, le vif, et j'envie les devins qui patinent le vernis vernal. Mercure sur 28, jusqu'avant la vendange du jus vert. Pas de verjus, pas de verlan dans mon vin. Un jus vrai de printemps, latin. Au village vêpre convient les ouailles. Moi, je dévale de mon blanc la soif à naval. Direction l'apéro, l'ouverture, pas les violons dînatoires. Et je rêve de vin au verre, vin au verre. Voilà, ça c'est pas la contre-étiquette, c'est l'étiquette directe.
Écrit par un ami Hervé qui avait, en collaboration avec Sandrine, on fait les étiquettes. Voilà, je les remercie. J'arrive à trouver quelques noms, moi, quand je suis inspiré, le soir tard.
Mais je voudrais qu'on n'oublie pas nos amis auditeurs. Je voudrais qu'on arrive à comprendre. Moi, mon job ici, c'est d'arriver à faire comprendre ce qu'on est en train de boire, pour qu'ils boivent avec nous, les gars.
Alors, ce qu'on est en train de boire.
On boit du vin naturel. Est-ce que quelqu'un ici peut me donner une définition de ce qu'est le vin naturel?
Le vin naturel, c'est du jus de raisin fermenté, point barre. Il n'y a pas d'intrants, on met pas de sulfite, on met pas de blocage, on met pas de levure, rien. On ramasse du raisin, on le presse, ce jus, on le met dans des barriques, dans des cuves, dans des fûts, etc. Et on attend que ça se fasse. Point.
C'est tout.
C'est pas une manipulation.
Je suis entièrement d'accord. La parole est à la vigne. Hein. Donc, pour moi, faire un vin, c'est le travail se fait d'abord et avant tout dans la vigne. Au chai, on est. Enfin, le vin naturel, c'est pour les gens qui n'ont pas fait d'études œnologiques. Donc, c'est plus simple qu'on n'a pas l'esprit encombré. Donc, on fait nos essais. On essaye d'accompagner le vivant. On l'accompagne sur les parcelles. Et donc après, on orchestre un peu ça au chai, mais c'est le raisin qui écrit la partition, d'où la notion de millésime, qui aujourd'hui, avec la gamme de vin, on va dire ça va mieux, il y a des efforts. Aujourd'hui, il y a plus de millésime, on est carrément arrivé au niveau des champagnes, quoi. C'est-à-dire si vous aimez un champagne X et que vous l'allez acheter dans une surface, vous avez toujours le même goût tous les ans. Et on a réussi à alors ça plaît, ça a plu, voilà. Après, il y a une des irréductibles qui aiment bien tenter les expériences comme nous. Bon, ça peut être agréable. Donc, le vin naturel, c'est effectivement, comme le dirait Pascal Olivier, c'est du jus de raisin fermenté, accompagné quand même. Il faut pas croire qu'on se contente d'être à poil et de fouler les raisins dans les cuves. Hein. Il faut quand même maîtriser les températures. Il y a quelques trucs à faire.
Et bon. Surtout, tu l'as dit, le vin se fait à la vigne.
Voilà, c'est là que ça se fait. Le vin se fait dans la vigne. Hein. On prend la terre, on la sent, on sent les choses.
Mais certains te diraient que c'est pas du vin.
Mais tous les grands vins sont des vins naturels, que ça soit la Romanée Conti, que ça soit la Coulée de Séran, que ça soit les vins de Savoie, etc. Tous les meilleurs vins du monde sont quasiment des vins naturels. Mais
alors,
uniquement.
Alors là, nous buvons un essai de petites bulles sur des cépages de blancs variés de vieilles vignes 1932 qui sont en méthode naturelle donc il n'y a pas d'ajout de levure. Donc pour obtenir de la bulle, il n'y a pas 36 solutions. C'est le champagne, ce sont les liqueurs de tirage.
C'est-à-dire du sucre de betterave ou du sucre de raisin.
En autre méthode de bulle, vous avez la levure Cervisia Killer qui anéantit toutes les levures et qui favorise la prise de mousse. Et ensuite, notre méthode, on va dire, qui est la plus naturelle possible. Je ne sais pas si c'est une méthode gaillacoise à proprement parler. Bon, à travers la rencontre d'autres collègues et tout ça, on a pu mettre ça au point. Donc, au final, on ramasse notre raisin relativement tôt pour garder l'acidité et la fraîcheur. Ensuite, on dégrade complètement les sucres sur l'ensemble de notre moût et on se garde une partie de raisin en vendange fraîche qu'on va ajouter ensuite pour avoir le taux de sucre qu'on va ensuite additionner à notre base. Donc, en fait, compte, mes bouteilles vont être mises en bouteille immédiatement après un refroidissement pour que les gens n'aient pas trop de poissons. Donc, le problème, c'est vu que nos vins sont ni filtrés ni collés. Et bon, il faut mieux éviter les dépôts. Sur une table de baptême, on essaye de réduire au maximum les dépôts, quoi. Pour moi, le dépôt n'est pas un défaut. Le dépôt est un gage de qualité. Mais bon, sur certaines tables, évidemment... Mais
ça fait pas propre.
C'est là où je voulais en venir, voilà. Philippe. Ça reste finalement un marché de niche, en quelque sorte.
Oui.
Parce que
oui.
C'est un vin de connaisseur.
C'est un vin de connaisseur.
Un vin d'averti.
Connaisseur, un bien grand mot, je minimiserais ce mot.
D'averti, je veux dire.
C'est très difficile qui est le con du connaisseur. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, voilà. Mais je veux dire,
qui achète ça aujourd'hui, tu le sais?
Moi, je sais pas. On livre certains magasins. Pierre qui vient d'arriver, merci d'être
bonjour,
arrivé.
Bonjour, Pierre Comte-Segret.
Bonjour, tout le monde.
Voilà. On fait déguster à ses clients, à ses amis. On aime bien avoir beaucoup de... Alors, ça, c'est le vin idéal pour se refaire la bouche.
Voilà.
À 8h du matin, après une soirée chargée, tu repars avec ça, ça désaltère. Ça, c'est une aspiration vino verdé, donc avec la méthode que je viens de vous décrire.
Ouais.
On est sur un raisin vert, quoi. Pour garder la fraîcheur, quoi. Donc à tout moment, il titre, on frôle la limite, on est à 9,62 degrés d'alcool, donc on est en dessous de 10 degrés, ce qui est sympa pour nous, les gens qui aimons un peu boire.
On peut en boire plein sans être sous trop vite.
On peut en boire plein, voilà, après chacun ses, chacun ses capacités.
Ça
ne rend surtout pas malade, donc l'aspirine est en faillite et tout est...
On peut en boire plein avec modération.
On peut en boire plein avec modération.
Pierre, il va nous parler de ce vin dans quelques instants parce qu'on peut, le boire de temps en temps chez lui.
Je veux bien en boire, en parler, mais il faut que j'en goûte.
Eh ben oui, on va écouter du jazz pendant ce temps-là.
Oui, aujourd'hui j'ai choisi Lavelle. Lavelle est une chanteuse américaine qui a eu l'occasion de venir souvent au Festival de Montauban, mais qui a disparu prématurément le 4 février à l'âge de 72 ans. Bon, elle était originaire de Chicago où elle a commencé à chanter dans les églises à l'âge de 3 ans. Son père était guitariste chez Nat King Cole et sa mère était danseuse au Cotton Club. Elle a fait des études classiques. Elle a eu, très jeune, elle a été repérée. Elle a eu une bourse de la Fondation Ford, dont elle a une grosse formation classique en tant que pianiste et chanteuse. Elle a même chanté Carmen à l'Opéra de Milan. Et elle n'a jamais renié le jazz et le négro spiritual. D'ailleurs, elle a accompagné, elle a fait des masterclass avec une chorale qui est dans le Tarn-et-Garonne, qui est à Bressol, qui s'appelle Vocal Colors, et qui donnera d'ailleurs le samedi prochain, le 13 février, un concert à Bressol. Mais là, le jazz, c'est bien d'en parler, mais le mieux, c'est d'écouter. Il y a longtemps que je ne l'avais pas fait.
Oui, c'est vrai.
Nous allons écouter Lavelle dans un hommage à Nat King Cole, dans le titre qui s'appelle Route 66.
Est-ce que je peux avoir un petit peu de pâté, ou est-ce que tu as tout mangé?
Mais non, mais c'est-à-dire que le jarret est pas facile à tartiner. Travel my way, make my way, it's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles along the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. I get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, Duncanville, Monona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on the 6. It's the best in the West, 66. Travel my way, Highway 66. I get your kicks on Route 66.
Route 66, titre enregistré dans son temps par les Rolling Stones ou Chuck Berry, mais qui avait été immortalisé par Nat King Cole, là, qui était interprété par Lavelle, la chanteuse de jazz et de spiritual.
C'est pas toujours facile de faire les relances et de dire qu'est-ce qu'on déguste quand on a la bouche pleine. Si vous prenez le train en marche, je vous explique ce qui se passe. On est au chaud, hein, rassurez-vous, on est dans notre studio avec l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste, presque au complet. Il nous manque juste Christophe qui est parti quelque part faire du ski dans les Pyrénées, mais il a été finalement remplacé par Pierre Cantegrel,
du Jour 73,
qui ça va. Et pour recevoir donc... dans notre studio aujourd'hui, Philippe et Sandrine Kuhn. Ils sont vignerons, mais pas que. Hein. En fait, c'est des paysans, quoi. Hein. Ils sont installés du côté de Vaour pour les vignes. Par contre, ils en ont un peu, nous raconterons ça tout à l'heure, disséminé à différents endroits du Tarn-et-Garonne. Avec ces vignes-là, avec ces raisins-là, eh bien, ils font du vin naturel. C'est cette gamme de vins qu'on est en train de déguster, qui ont des noms assez marrants. Hein.
On est parti sur le verre du vin.
Le verre du vin.
Le deuxième, si on se couche plus.
On se couche plus.
Donc, ce pétillant naturel, alors on se couche plus.
Après. Et le vocifère, c'est ce qu'on attaque maintenant.
Et le vocifère.
On va continuer nos dégustations dans quelques instants. Juste, il faut que je dise aussi que tout à l'heure, il y aura un quiz. Donc, si vous voulez gagner des cadeaux, ce sera tout à l'heure dans une demi-heure. Au 05 63 930 020.
Je vais pas appeler.
CFM à Moissac, 90.7.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Dans la prochaine partie de cette émission, on va continuer nos conversations avec Philippe Kuhn et puis peut-être qu'on entendra la voix de Sandrine, sa femme, qui est la femme du vigneron. Vous savez comment c'est, on en a parlé déjà de nombreuses reprises dans cette émission, des femmes de vigneron qui sont là derrière à soutenir le vigneron.
Statut difficile, mais nécessaire.
Avec Pascal Olivier, Georges Bonfils et l'arrivée...
Surprise
de Pierre Cantegrel. Merci
de les vacances, c'est pour ça.
De nous réjouir. Donc du coup, ça nous permettra d'avoir comme ça aussi l'avis d'un restaurateur sur les vins naturels de Philippe et Sandrine Kuhn.
Et autres vins naturels.
Et on discutera.
C'est la famille.
Mais aujourd'hui là, c'est toi. C'est comme ça. On passera un petit coup de fil tout à l'heure à un artiste que j'aime beaucoup et qui va être dans la région samedi ou vendredi 11. Je sais plus si c'est un vendredi ou un samedi. Ce sera à Moissac.
Vendredi.
On va lui passer un petit coup de fil à Cuba. Et à Cuba, croyez-moi, il fait beau. Il a sorti un album en 2014, son 10e album, il s'appelle Raoul Paz. C'est vachement bien ce que fait ce garçon. Et donc, on lui demandera non pas de nous parler de son disque, mais de nous parler de l'apéro et de ce qu'il aime manger. Hein ? On lui passera un petit coup de fil, puis ça nous donnera l'occasion de l'écouter. On fera un quiz dans une demi-heure au 05 63 930 020 à gagner ce soir.
Un week-end
pour deux personnes à l'hôtellerie du Vieux-Corde. Vin naturel, c'est ce dont on parle ce soir. Alors, vin naturel, c'est presque un jus de raisin, c'est presque du champomy, quoi.
Le on se couche plus. Oui, c'était un peu l'esprit, d'où le titre de la bouteille, qui avait deux raisons à ce titre. Donc, on se couche plus, ça avait à côté, effectivement, champomy, donc on pouvait en boire jusqu'au bout de la nuit. Avec toujours de la modération, mais on pouvait tremper les lèvres à tout moment, sans aucun risque. Et la deuxième raison, c'est qu'on a laissé à stockage des bouteilles debout, puisque en raison d'éliminer ce problème le plus possible, ce problème de dépôt, quoi.
C'est tout. Parce que Pascal, quand il m'en parle, à chaque fois, il me dit « Ouais, tu vas voir, parce qu'avant que je te rencontre, on buvait du « On se couche plus », il me disait « Ça, tu vas voir, ce vigneron, c'est un mec, il se couche pas politiquement, tu vois, c'est un anarch, c'est un vigneron anarchiste, alors on se couche plus
devant les dictats, la grande distribution, tout ça,
ouais, mais il y a aussi des indications techniques sur le fait de « On se couche plus », ouais, les bouteilles ne doivent plus se coucher, ouais.
Elles restent debout,
elles sont des cuves, debout, comme ça, voilà.
On se couche plus, donc c'est 9 degrés.
Effectivement. 9 degrés, ouais.
9,62
pour être précis.
Soyons précis.
On parlait un petit peu plus tôt dans l'émission de cette niche, quoi, de d'être un petit peu un public averti pour pouvoir boire ces vins-là. On en boit de temps en temps chez toi, Pierre.
Alors moi j'y vais.
Molo.
J'y vais de.
Ne pas foutre si la clientèle dehors.
Si ça tenait vraiment qu'à moi, j'irai encore un peu plus loin dans le vin nature. Il s'avère que, comme tu disais tout à l'heure, ça, il y en a encore beaucoup qui sont un peu borderline, comme on peut dire. Voilà. Et donc pas commercialement difficile.
Ah, tu te rappelles la fourmi de Denis Dusserre, voilà, qu'on a bu il n'y a pas longtemps.
C'est
très bon. Enfin, quand on aime ce goût-là, c'est très bon. Je pense surtout que les vins naturels, ça va de plus en plus fonctionner, parce qu'il y a comme même Philippe, t'es l'exemple, qui fait que quand même tu t'améliores
d'année en année.
Moi j'ai goûté des trucs chez toi il y a quelques années où c'était quand même
très improbable,
très improbable, voire complètement barré,
voire complètement, voilà, il fallait être
mais bon, je pense que en fait la problématique des vins naturels, les gens aiment moins parce qu'ils n'ont pas un palais éduqué. Il faut rééduquer un palais à ce goût-là.
C'est pas la tendance, ouais. La tendance, c'est plutôt d'aller vers des vins marketés.
Voilà,
des vins de coopérative.
Je rappelais tout à l'heure que la Romanée Conti est un vin naturel, la Coulée de Seran est un vin naturel.
Tout à fait.
Plein de très grands vins, que ce soit en Bordeaux, que ce soit en Savoie.
J'ai jamais bu une Romanée Conti.
Sont des vins naturels. Donc tu mets ça sur la table.
Il y a Claude à côté, mais pas.
Voilà, personne va te dire qu'est-ce que c'est que cette merde si tu leur sers.
Mais parce que quand même, la Romanée Conti, c'est relativement maîtrisé aussi, quand même.
Hein. Ah ben,
j'ai bu une.
Petit terroir.
Ah, t'en as bu une? Non, mais parce que c'est ça. S'il faut, c'est infect.
Non.
Mais comme tu l'as payé un bras.
Non. Moi, j'ai bu à l'aveugle, donc je savais pas du tout ce que c'était. Et je. Et ça a l'air quand même que c'était un bon vin, quoi. Et le vin naturel, oui, je commence à en rentrer quelques-uns. On en a bu un à midi d'une jeune fille de
Languedoc-Roussillon,
un pays d'Oc, je me souviens plus de
avec le fameux cépage Saint-Saul.
C'est une vigneronne
qu'on peut boire
et c'est vraiment super bien maîtrisé. Là par contre, on est dans du chouette lait. Toujours quand même un goût un peu typique. Hein.
J'aime bien ce qu'il te dit dans ton émission. On consacre une émission à Philippe.
Nous sommes un jour frites.
Et lui, mais il dit en parlant du vin qu'il a bu à midi. Là, par contre, c'est un super vin. Tu vois.
Non, mais c'est.
On n'a pas bu non rouge à midi.
C'est ces vins-là vers lequel il faut tendre pour amener le public.
Le grand public.
Le grand public au vin naturel. Voilà. C'est maintenant, il y a de plus en plus de vignerons, mais Philippe n'est pas dupe. On en discute
tout à fait.
Souvent là-dessus.
Il faut quelque chose de consensuel.
Il faut quand même quelque chose de vendable, quoi. Oui, voilà. Et de temps en temps, moi le premier. Moi, tout à l'heure, il passera des trucs.
Ça sent le cul de cheval.
C'est pile ou face.
La fourrure mouillée.
Les gars, pour être poli. Les gars. Ouais. Est-ce que c'est pile ou face?
Non.
Pile ou face?
Oui, est-ce que c'est pile ou face? Est-ce que,
tranche, c'est tranche.
Non, mais quand on fait un vin comme ça, est-ce qu'on sait vraiment où on va? Est-ce qu'on sait vraiment ce que le raisin va donner? Non, ou est-ce que c'est pile ou face?
On sait pas vraiment où on va. On a une idée, on a des temps de macération, on a décidé de quelque chose, mais après, et l'histoire même de ce vin qu'on est en train de déguster, qui est le blanc sec de la propriété, avec son titre le Vocifère, est l'exemple même. L'histoire, c'est quoi? C'est le Vocifère.
Il pétille plus, celui-ci.
Non. Il pétille plus. Là, on est sur un blanc sec posé, composé avec en moitié Mosaic. Et en moitié, ce fameux cépage interdit maintenant en plantation, qui était assimilé au cépage Noah. Donc ça, c'est un numéro d'hybride. Donc qui a été interdit en plantation pour des raisons, selon moi, économiques, puisque chaque vigne paysanne avait quelques rangs de ce cépage parce qu'il avait une résistance forte aux maladies. Grosso merdo, si quand vous passez avec, pour le sulfater votre vigne, puisque malheureusement, même en vin naturel et même en agriculture biologique, on ne peut pas s'affranchir de tout traitement.
Le poudrage.
Donc évidemment, il y a des... Bon, alors après, nous on est en homéopathie sur le cuivre et le soufre. On n'est pas passé encore aux essais prêle, décoction de prêle, purin d'ortie, parce que déjà on n'est pas sur place, donc c'est plus compliqué, parce que tout ça, il faut être dans la cohérence sur le lieu. Un prêtre ne va pas préparer son serment à 100 km de sa paroisse. Enfin, il faut être sur place, vivre la biodynamie, il faut vivre les choses en énergie sur le lieu. Et le faire, quoi. Il faut brasser ses purins, on peut pas être à 50 km comme c'est le cas pour nous pour des conjonctures privées et pouvoir maîtriser ce genre de choses. Donc on continue à utiliser le cuivre et le soufre. Je suis pas pour, mais on est obligé en dose homéopathique, puisque ma femme et moi prenons nos petites pompes à dos, et c'est de l'attraction animale humaine. C'est voilà, quand on se balade. Il y en a qui randonnent, hein, nous on pompe. Donc on pompe.
Comme les chadocs, ouais,
on pompe. Après on pompe aussi.
Pour cerner le personnage, Philippe Kuhn, un jour à 3h du matin à Vaour, nous a sorti que j'appelle une fulgurance et qui est restée gravée et qui restera gravée au fronton des grandes phrases. Il a dit « On ne boit pas suffisamment par rapport à ce qu'on devrait ».
Voilà.
Mais ça, je crois que tout le monde peut le partager. Et c'est vraiment, ça devrait être gravé au fronton du Panthéon. La patrie aux grands hommes reconnaissants, non, on le barre. Hein, le jour du grand soir, on va le barrer, on va mettre, on ne boit pas suffisamment par rapport à ce qu'on devrait. Et ça, c'est bien le personnage.
L'avantage des vins naturels, hein, qui sont des vins digestes et faciles à boire, quoi. Ça reproche pas, c'est gouléant, il n'y a pas de brûlure gastrique.
Et puis on consomme français, quoi. C'est pas de l'importation.
On consomme français. Alors après,
Patrick Combalvert sur Internet,
collègues espagnols en vin naturel qui sont magnifiques.
À l'instant, du bon vin qui sent les pieds.
Qui sent le vin ?
Qui sent les pieds.
Le Vocifère qu'on déguste actuellement avait une.
Non, ouais.
Il s'appelle le Vocifère parce qu'on a eu on l'a mis en bouteille au printemps dernier à Pâques. On essaie de suivre un peu les calendriers lunaires et tout ça, et les meilleures dates pour faire les mises en bouteille et tout ça, comme dans la vigne. Et donc. Et quand j'étais très déçu, parce qu'en cuve ça goûtait, on en buvait, et après la mise en bouteille, il y a eu une oxydation qui s'est passée. J'ai dit, on va quand même pas jeter toutes ces bouteilles. Et donc au départ, c'était, j'ai dit spontanément, il va falloir s'y faire. Et donc ça a évolué, il va falloir s'y faire. Après, cette oxydation a disparu, comme on peut le constater.
Complètement.
Et donc on l'a transformé en
levocifère.
Voilà. Bon, c'est ce qu'on appelle la maladie de la bouteille. Hein,
voilà. Il y a eu une casse à un moment donné dans cette bouteille. Donc c'est le risque avec les vins naturels. Il y a des périodes où les vins ne goûtent pas. Voilà. Il faut les oublier. Ça les reprend après.
Ça, il faut bien le faire comprendre.
Il faut le faire.
On est dans une bonne période après goûter.
Là, on est en fruits. Il y a deux étoiles. On n'est pas trop mal. On est bien. Ça serait une bonne journée pour une mise en bouteille. Si j'étais chez moi au chez et si j'avais une barrique qui traîne, je la mettrais en bouteille. Malheureusement.
Philippe, est-ce que tu te sens d'être assez concis dans 5 minutes? Tu prépares un petit peu ton truc et tu m'expliques l'histoire des jours. Avec les jours fruits, les jours terre, les jours mer, les jours amasseurs et tout ça. Mais d'abord, on va faire un petit coup tour du côté de Cuba. Parce que je voudrais qu'on passe un coup de fil à Raoul Paz. On va écouter un petit extrait là de son dernier album, Ven. Et puis on va lui passer un coup de fil dans la foulée parce que il sera notre invité dans PCV la semaine prochaine et parce que il sera samedi prochain à Montauban, à Moissac pardon, sur la scène du Hall de Paris.
Ven, la puerta está abierta, las ganas se despiertan, te quedarás si no te animas. Ven, mira cómo te miras, te besan y te cuidan, la noche seguirá despierta. Yo no sé lo que tú estás buscando, lo que estás esperando, pero nada te desanima. Ven, te baila, las mujeres se excitan, los poderes y los maridos se retiran. Lo que hace falta para seguir volando, lo que hace falta para seguir gozando es mirando para los bolsillos, sí, mano para los bolsillos, mamá.
hay que mirar en grande. No pares tú, no cambies, que yo vendo aspirina. Ven, ven, que todo están mirando, te están enamorando. ¿Qué importa cuando se termina? Yo no sé lo que tú estás buscando, lo que estás esperando. La buena vida no se olvida. Ven, ven, tan solo está faltando un poco de más mambo pa' que no falte vitamina. Pero no digas que te estás cansando, no me digas que te estás mareando. Y mira, hey, man, si se te está acabando, entonces vete echando, que aquí se vende y no se fía. Mano pa' los bolsillos. Sí, sí, sí. Mano pa' los bolsillos. Ma, ma, ma. Mano pa' los bolsillos. Mano pa' los bolsillos. Mano pa' los bolsillos. Ponle papá.
Et j'ai le plaisir de recevoir maintenant, par téléphone depuis Cuba, Raoul Paz. Bonjour Raoul Paz.
Bonjour.
Merci d'être là et bienvenue dans Qu'est-ce qu'on déguste. Dites-moi, Raoul Paz, à l'heure de l'apéritif à Cuba, qu'est-ce qu'on déguste?
À l'heure de l'apéritif, ça, c'est un peu difficile de parler de ça quand on parle avec des Français, parce que c'est un peu l'art français, surtout c'est de la peur. J'aime bien. À Cuba, il n'y a pas beaucoup cette idée de l'apéro, de l'apéritif en fait. Et cette espèce de monument qui peut être en France, de s'asseoir, prendre un verre et déguster des petites choses extraordinaires qui vont nous donner l'appétit pour entrer à table plus tard. Et ça n'existe pas vraiment à Cuba en fait. Ça n'existe pas l'heure de l'apéro. Les gens, à l'heure de l'apéro, ils vont boire une bière. Et ils vont prendre quelque chose à boire, mais pas forcément à manger. Ça suffit de quelques cacahuètes, des petites choses, mais c'est pas important en fait.
Ah oui, c'est pas un moment important. Ce qui est important, c'est le repas qui va suivre peut-être.
C'est le repas, ouais. Ouais. C'est le repas qui va suivre après. C'est le moment où tout le monde se réunit. C'est le moment de la famille. C'est le moment où on passe un moment à table, etc.
Ouais. Et vous, par exemple, votre plat préféré, qu'est-ce que c'est, Raoul Paz?
Mon plat préféré, oh là, ça c'est, moi je suis un gourmand, moi j'adore, et surtout tout ce temps passé en France, ça m'a permis de bien apprendre la culture française culinaire, et j'ai plein de plats préférés, mais si je pense au sud-ouest de la France, je crois que j'ai par là, toi, un bon cassoulet ou un bon confit de canard, c'est peut-être une des choses que je préfère au monde. Et dès que tu rentres en France, c'est quelque chose que j'ai fait tout de suite.
Ah, ben alors, très bientôt, vous pourrez apprécier un cassoulet, puisqu'on vous retrouve sur la scène de Moissac dès vendredi prochain. Merci d'avoir été avec nous dans Qu'est-ce qu'on déguste, et à la semaine prochaine, alors, du coup, Raoul Paz.
Merci à vous, à la semaine prochaine.
Nunca sé lo que haré cuando comience el día. Me gusta imaginar que no termina. Me asomo a la mañana para ver. Me doy cuenta que hay mucho por hacer. Ganar, creer o imaginar. Romper el muro de papel. Luego tú me abrazas sin querer. Eso basta mi vida para ser. Eso me basta para estar feliz. Para estar feliz. Soy lo que soy. Trato de hacer lo que aprendí. Me enredas. Enredo frente a ti, mil guerras he perdido por ganar, y si trato de hacer bien me sale mal. Sé que estoy tratando de entender este mundo que no para de correr. No, no, mi amor, no pienses mal, que la vida no para de girar, y yo voy dando vueltas, dando vueltas.
Nadie sabe el amor, nadie sabe el amor, nadie sabe.
Estoy. Mira a ver tú si sabes más. A veces llegas, pero a veces no te da. Cuando parece que empezó, es porque ya va a terminar. No sé bien qué dice la verdad. No sé muy bien quién la dirá. No, no, mi amor, no pienses mal. Que la vida siempre va a girar.
Please.
Tú vas dando vueltas, dando vueltas.
Nadie sabe, nadie sabe.
La Daniel Samé, extrait du 10e album de Raoul Paz Benven. Un album qu'on va découvrir dans PCV la semaine prochaine à l'occasion de la venue de ce grand monsieur Moissac. Samedi prochain, vendredi prochain. C'est qu'est-ce qu'on déguste? Je mets du pâté partout. Ça, c'est
un
pas
des
cool.
Dernier pâté de Philippe Kuhn.
Eh ben oui, parce que.
Eh oui, le
avant,
cochon noir, il n'y en a plus.
Philippe Kuhn faisait du cochon, du porc noir gascon.
Voilà.
Et
élevé dans la plus noble des traditions.
Est-ce que ça a été difficile d'arrêter ça ou est-ce que c'était une c'était un soulagement?
Je suis dans l'élevage depuis 1989, donc je dois vous avouer que on a déjà la strain de chier tous les matins. Donc allez, en plus soigner des bêtes tous les matins 365 jours par an, on est en 2016. On va dire place aux jeunes. Moi, j'ai un peu les nerfs carpiens abîmés. J'ai physiquement et puis conjoncturellement, j'ai toujours pas ma ferme au jour d'aujourd'hui. Hein. On est un peu encore des nomades, paysans, mais ce qui me déplaît pas quelque part. Donc arrêt d'élevage. Malheureusement, bon, il y avait une clientèle qui suivait. Il y avait une clientèle qui suivait, dont Pierre était là, on peut en parler, il y avait du beau sec, il y avait du... Voilà, ça fait un peu un petit pincement au cœur, mais par rapport à la joie de pouvoir profiter, on va dire, de sa famille, d'organiser, de prendre des petits week-ends, plus de disponibilité, quoi. Voilà, l'élevage demande beaucoup trop d'astreinte pour moi, donc au bout de 25 ans, on va dire que c'est bon. Mais après, si j'habitais dans ma ferme, j'aurais évidemment des cochons, des moutons, mon âne et tout autour de moi.
Ah, Sandrine, on l'entend.
Puis on n'a pas non plus les vignes à côté de chez nous, donc l'astreinte des bêtes nous bloquait énormément sur les travaux des vignes. Ouais. Donc forcément, arrêtez.
Parce que là, vous devez passer un bon moment à Montpezat-Quercy. Vous avez des vignes à Montpezat, des vignes à la française.
À Montpezat, c'est tout nouveau. Par opportunité, on a pu récupérer 2 hectares sur une magnifique parcelle qui appartient à Damien Vert, qui est maraîcher en agriculture biologique, qui avait fait à la base, je le connais pas beaucoup, mais assez, Bon, c'est un chouette gars qui voulait s'installer en vigne, mais qui a préféré s'installer en maraîchage finalement, considérant que la vigne aussi demandait une astreinte, évidemment également.
Mais donc ça veut dire que vous avez des vignes avec du raisin là-bas, des vignes avec du raisin
dans le triangle des Bermudes.
Comment vous faites après pour faire
On habite à Vaour, on a le chai à Vaour, et après on navigue. Donc mon exploitation est basée principale, on va dire, à Saint-Christophe entre Molière et Mirabel, où il y a ces 13 hectares. Où on fait notre polyculture on a là-bas 2,5 hectares de vignes avec beaucoup de raisins de table également qui nous font alors si vous voulez, c'est un peu ma passion. J'ai une formation, moi je suis presque trop exigeant parce que j'ai une formation raisins de table. Donc j'accorde une grande précaution aux raisins puisque j'ai une formation de chasse-latier en quelque part. Donc beaucoup plus d'attention à la vigne que le raisin de cuve que l'on traite différemment. Le raisin de cuve, on fait tout ce qu'il faut pour, mais on est à part dans les grands domaines, je veux dire, mais sinon on n'accorde pas la même. On n'est pas dans le même esthétisme. Le chassa, comme on le disait, c'était quoi, toi qui avais fait des études? Le chassa, c'était l'enfant.
C'est l'enfant gâté des vignes.
Enfin, l'enfant gâté de la ferme, quoi. C'est le truc qui demande beaucoup d'attention, quoi.
En bio ou en biodynamie?
Alors, on est certifié agriculture biologique sur toutes les terres qu'on travaille. La biodynamie, je n'ai pas. Alors, on travaille en biodynamie dans l'esprit.
D'accord.
À savoir qu'il y a un respect total du calendrier lunaire.
Voilà, alors c'est là où je voulais en venir. Le fameux calendrier lunaire.
Je devais
lunaire.
Me concentrer pendant les 2 minutes, mais on a parlé d'autre chose, du coup je ne suis pas recentré. Mais ça va être quand même possible.
Un petit jingle. Regarde, le petit jingle. Et qu'est-ce que c'est qu'un jour fruit plus plus?
Alors grosso modo, si vous voulez, on a... Le calendrier lunaire, on a les effets de lune montante et lune descendante, on peut s'en tenir là. À l'intérieur de cela, il y a des jours plus favorables selon les parties à traiter.
Non mais donc, on est sur la dégustation, je parle pas forcément de la parce que c'est aujourd'hui, c'est bien de boire du vin aujourd'hui, mais aujourd'hui, ton vin ça aurait pu être un mauvais jour. C'est ça que je voudrais que tu m'expliques.
Un mauvais jour. Alors après, évidemment, c'est pas non plus un écart, mais comme vous le savez, on est tous des buveurs autour de la table, on n'arrive jamais à retrouver le même vin. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs paramètres. Il y a ces paramètres-là. Après, il y a la convivialité, le verre dans lequel on le boit, l'endroit dans lequel on le boit.
Avec qui ?
Avec qui on le boit. Celui qui arrive à retrouver deux fois la même émotion sur un vin, c'est impossible. Je suis le premier à m'être fait blouser. J'aime bien une bouteille, j'achète un carton, je le rebois. C'est pas qu'il est pas bon. J'ai pas la même émotion.
C'est pas la même chose.
Le vin est une histoire du présent. C'est le présent qui se joue au moment où on le déguste, quoi. Donc là, il s'avère qu'on est dans un jour favorable parce qu'on est dans un jour fruit.
Oh putain,
donc,
ça c'est bon.
C'est quoi
ça.
Ces jours fruits?
On va continuer. Là, c'est une bombe aromatique.
Ah, ça, non, mais
de
ne
2014.
Coupe pas le fruit. On y était. Il était recentré là.
Mais c'est l'émotion qui part.
Ça fonctionne aussi avec la musique.
Ça fonctionne également avec la musique. Oui, tout à fait.
Il y a des jours fruits dans la musique.
Dans tout. Mais dans toute relation humaine.
On ne peut pas nier celui qui nie que la marée monte et que la marée descend. Il n'a pas été à l'océan. Donc, je veux dire, ces effets là, quand même.
Mais c'est quoi le jour fruit quand même? Jour fruit.
Donc un jour fruit, c'est une conjoncture d'astres qui fait que, je veux dire, c'est pas moi qui ai fait le calcul.
Bien sûr.
Moi, je m'applique à mon cahier qui m'indique les jours fruits, les jours racines, les jours feuilles et les jours fleurs. Donc, selon ce qu'on veut faire, on va travailler selon les influences de ces jours-là. Alors pour la dégustation, effectivement. Pour des vins de terroir, on va choisir des jours racines. Pour des vins exubérants, on peut choisir fleurs ou fruits. La feuille est toujours à éviter. La feuille.
Ça, c'est comme quand tu joues à chou, caillou, ciseaux, là, feuille. Voilà. La feuille, tu fais toujours avoir par le ciseau.
La feuille nous perd. Ouais, la feuille d'impôt. La feuille nous perd toujours.
Ouais. Donc, sauf en musique.
En musique.
On a besoin la de feuille est notre
ami.
Et la feuille. Bon, j'ai rien compris à cette histoire de jour.
Ça c'est très compliqué.
Sauf que je retiendrai que aujourd'hui
on est dans une bonne. On a choisi bien le jour, en concertation, voilà. Mais quand on est relié, on tombe toujours bien.
Alors on peut trinquer du coup.
On va trinquer. J'ai pas le même.
Ah non, en trinquant avec le même. Tiens, hop, avec toi je crains.
Là nous sommes sur un formidable Cabernet Franc.
Voilà, c'est Cabernet
deux tiers à Bourioux, un tiers 2014.
Oui.
Une belle explosion.
Oh, ça sent bon par contre.
Une belle
très, très
bon.
Ben, tu vois, des fois ça sent pas bon, le vin naturel, ben là ça sent
on
bon.
On peut dire.
Hein?
En alcool, on arrive à être toujours à peu près dans les. On essaye de rester à 12 degrés. Nous, on a soif.
Mais c'est pas ça.
On cherche pas à monter les degrés. Maintenant, il faut quand même ramasser le raisin à maturité.
Souvent, on cherche plutôt à descendre les degrés dans le coin. Hein.
On essaye à descendre les degrés. Moi, le vin paysan. À 10 et demi me convient parfaitement.
Oh, c'est bien ça.
Pour mon mode de consommation, voilà.
Comment ça s'appelle?
No limite. Parfait, hein.
Le no limite.
Ah, le no limite, c'est bien.
Mais apprécié. Deux tiers cabernet.
Philippe Kuhn, où est-ce qu'on peut trouver le no limite? Parce qu'on vient de faire un
Coxibio.
Coxibio. Où ça? À Coxibio. Rendez-vous. C'est encore ouvert?
Dans une demi-heure, c'est encore ouvert.
18h30.
Voilà.
Ah, si vous êtes du côté.
Après, cocher chez moi sur rendez-vous. Je suis pas commode. Il va falloir montrer patte blanche.
Il faut trouver un endroit. Y arriver.
Après avoir fait des pâtes noires pendant 20 ans, maintenant il faut mettre une patte blanche.
Dans quelques instants, messieurs, dames, vous pourrez, peut-être repartir, nous téléphoner et puis gagner un week-end pour deux.
Le jour fouille.
À l'hôtellerie du Vieux Corde. C'est les infos, à tout de suite.
0563 930 020 CFL. Jouez et gagnez.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste? La suite, allez, attention, c'est à vous, hein. C'est maintenant que vous nous appelez au 05 63 930 020 pour repartir avec donc une nuit pour
là.
Enfin un week-end pour deux personnes à l'hôtellerie du Vieux Corde.
Ah, c'est pas pour nous.
Non, ça c'est pas pour vous, monsieur dame. Avec aussi des entrées pour le salon chocolat et vin de Villefranche-de-Rouergue. On va faire un petit package. En attendant, je vais lire sur la page Facebook ce qui est adressé à notre invité Philippe Kuhn et à sa compagne Sandrine par rebond. Pardon Sandrine, mais ça n'est pas directement adressé à vous. La phrase qui est postée sur notre page Facebook de CFM. La radio te va bien, mon cher Philippe, mais continue à nous faire du vin. C'est signé Coxibio.
Ah, bonjour. Voilà. Cyril.
Merci Coxibio. Voilà, Et toute l'équipe.
Et donc, vous, si vous prenez le train en marche, sachez que Philippe Kuhn et Sandrine nous font déguster leur gamme de vins naturels qui sont réalisés de A à Z en Tarn-et-Garonne, et on va y revenir. D'ailleurs, le quiz qu'on va proposer maintenant est directement autour du travail de Philippe et Sandrine Kuhn. Qui est là ?
Paulette de Montauban.
Bonjour Paulette.
Paulette.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu
Paulette. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une Paulette.
Est-ce qu'elle fait les paupiettes ?
Paulette. C'est paupiettes, oui.
Comment allez-vous, Paulette ?
Très bien, merci.
Vous écoutez l'émission depuis le début ou pas ?
Eh oui, depuis le début, oui.
Ah, il me semble reconnaître cette voix.
Vous n'avez encore pas éteint la... le poste, c'est pas possible.
C'est la Paulette que je connais.
Non, c'est pas possible, non.
Si.
Ah, monsieur a des appointements.
Ah, monsieur, ouais.
Monsieur de la Paulette.
Ah. Et alors, c'était bien, c'était chouette.
Monsieur Paulette.
La bicyclette.
Première question.
Première question. Si tu as bien écouté, est-ce que le vin, c'est du Lucifer, ou du Vocifer?
Vocifer.
On est audible.
Vaut s'y faire parce que, Philippe...
Il va falloir s'y faire.
Voilà. Pierre Cantegrel qui nous a rejoint, qui est avec nous, qui va nous chanter une petite chanson.
Allez.
T'es venu avec ton...
Je chante pas.
Oh, si, parce qu'un jour, on a dit qu'on ferait une émission spéciale sur les chansons de rugby, chansons
de
paillard.
C'est pas de la chanson, c'est
du broyage.
C'est autre chose. C'est des paroles, monsieur.
Pierre Cantegrel, c'est le patron et le cuistot d'un restaurant qui s'appelle le Faubourg 73. Est-ce qu'il est situé à Montauban, à Rodez ou à Albi?
Peut-être Montauban.
Gagné.
Oh. Vous êtes déjà allé?
Vous êtes déjà allé, Paulette?
Et non.
Il va falloir y aller, hein.
Ben oui, bien sûr.
Vous irez de notre part, il vous fera un
Paulette, on s'en
fatigue. Vous allez dire, c'est Paulette.
Et il t'offrira la péri.
Avec une bouteille de vin.
Dis-le en direct.
Oh, ben avec grand plaisir, Paulette, je vous
offre pour le cuit. Philippe Kuhn offre une bouteille, l'erreur. Un cuvée, qu'il n'y a plus que Pierre.
Ah oui,
improbable.
Oh, mais magnifique découverte.
Ah oui, magnifique, oui.
Elle bouge un peu. Vous allez voyager, Paulette.
Paulette, si vous répondez correctement à cette question, vous aurez remporté cette nuit pour deux personnes à l'hôtellerie du Vieux-Corde.
Avec Georges.
Partez pas avec Georges.
Ah, avec Georges. Bravo. Est-ce que l'on peut récolter le raisin pour faire du vin naturel avec une vendangeuse?
Une machine à vendanger.
Une machine à vendanger.
Oui.
Pas une vendangeuse.
Voilà, c'est non, pas une question.
Parce que la récolte se fait à la main.
Parce qu'on n'en avait pas parlé, effectivement,
non,
mais Philippe.
Nous avons beaucoup de sujets à évoquer, donc nous n'avons pas parlé de cet aspect des choses. Effectivement, un vin naturel ne peut pas se concevoir, puisqu'on ne met pas de sulfite de A à Z, parce que la machine à vendanger, par définition, ne trie pas. Même si les machines sont intelligentes, elles ont une intelligence.
Ouais. D'ailleurs, le
qui
mari
reste
de...
l'intelligence des machines.
Mais tu disais
le mari de Paulette connaît quelques propriétaires particuliers, notamment dans le Bordelais, où ils font des vins naturels qui sont de très très bonne qualité. J'ai eu l'occasion d'en goûter chez eux.
Voilà.
Le mari de.
De Paulette. D'accord.
Tu peux prendre un blanc?
Non, nous avons.
Bravo Paulette.
Bravo.
Allez.
Bravo.
Vous avez gagné un week-end pour deux personnes à l'hôtellerie du Vieux-Corps.
Plus deux entrées pour le salon du chocolat.
Et deux entrées pour le salon du chocolat.
Et un apéro.
Attends, laisse-moi finir. Deux entrées parce que sinon je me fais engueuler par le mec qui organise le salon du chocolat.
Vas-y.
Oh oui, salon du chocolat. Oui, ok.
Et du vin de Villefranche de Rouergue. Parce que sinon,
du vin de Villefranche de Rouergue.
Mais oui, tu
le
vois.
Le salon du vin.
Vous m'empêchez de dire jusqu'au bout. Entrez pour le salon du chocolat et du vin les 12 et 13 mars prochains à Villefranche de Rouergue. C'est organisé par le Lions Club de Rodez ou de Villefranche, je ne sais plus, de l'Aveyron. En tout
cas. Tu vois.
Prenez le 12 parce que le 13 vous avez Écosse-France.
Ah ouais. Et le 13, les oursinades d'Otto à 7.
Les oursinades d'Otto
à 7.
Ah, ça je l'ai fait, ça.
Le 12, c'est l'anniversaire à Paulette, les gars.
Comment ça?
Le 12, anniversaire à Paulette.
Non,
oui.
C'est son anniversaire. En plus, elle va le fêter à Villefranche de Rouergue, énorme.
Oh, non.
Je crois qu'elle le fête.
Oh, mais ça y est, Georges.
C'est ta sœur, c'est ta maîtresse.
C'est pas ta sœur,
c'est pas Paulette, ta sœur. C'est le fête.
Elle a dit oui.
Au Clos Montaigne.
Au Clos Montaigne.
Au Clos Montaigne.
Ah, excellent notable, si vous regardez. J'adore.
Allez, merci Paulette, à la prochaine.
Bon week-end à vous, bon week-end.
Paulette, on aimerait bien.
Et la femme de Tony, le guitariste.
Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de parler tous en même temps.
Ah ben ça c'est du lit.
Pour vous calmer, on va écouter du jazz.
La Velle, oui. Je vous disais que Paulette était la femme de Tony, le guitariste, qui est le guitariste jazz du big band de Montauban.
Ah, d'accord.
Ouais, tu le connais, Tony, on avait été le voir. Tony Misera qui fait des guitares, c'est luthier amateur qui fait des guitares avec des bois, avec des grosses caisses qui sonnent super bien, qui sonnent mieux que les guitares américaines style Martin ou autres qui sont fait des guitares de réputation. Lui fait des guitares très très bonnes, excellentes. J'en ai d'ailleurs une dont je peux vous en parler.
À vendre.
Ah. Ah. Il s'enflamme. T'as vu,
t'as vu, bon, j'ai choisi Lavelle, la chanteuse de jazz, qui a vécu en France, et le disque que l'on écoute a été enregistré à Cordes dans les années 91, avec notamment Pierre Boussaguet à la contrebasse. Il y avait Jacques Terrasson, qui est devenu un des meilleurs pianistes, qui est moitié français, moitié américain, et un des meilleurs pianistes de jazz. Il y avait Ray Warren aussi à la contrebasse, deux contrebasses, et aussi notre saxophoniste du Sud, Guy Lafitte, qui était encore en vie. Et là, nous les écoutons dans un morceau très joyeux qui s'appelle Get Happy.
Et tu vas arrêter de dire à tous tes copains et tes copines d'appeler pendant l'émission.
Attends, Paulette, elle a été forte.
Ah, Paulette, championne du monde.
Ah ouais, parce qu'aujourd'hui, les questions n'étaient pas faciles.
C'est super compliqué.
Non, mais...
Je suis un amateur.
You gotta chase all your blues away. Shout hallelujah, come on, get happy. We're heading for the judgment day. Turn aside and come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river. Wash our sins away in the tide. It's oh so peaceful on the other side. Get your troubles, come on, get happy. You better chase all your blues away. Shout hallelujah, come on, get happy. We're ready for the judgment day. We're gonna take our blues away.
Get Happy par la chanteuse de jazz spirituel et de musique classique, Lavelle.
C'est Philippe Kuhn, notre invité. C'est vrai que quand on fait le choix comme ça de faire du vin naturel, on fait le choix de pas de devenir milliardaire quand même. Il faut qu'on se le dise, non, Philippe?
Ah, mais bien sûr.
Hein. C'est un choix de vie.
Un plaisir de faire des choses et de les communiquer, d'offrir un éventail.
Viens dans le micro, s'il te plaît.
Aux gens, voilà. Voilà. Pour des expériences.
C'est combien de bouteilles? C'est combien de...
Alors, pour l'instant, on est sur une production limitée qu'on espère agrandir avec notre nouvelle parcelle à Montpezat. On va dire, grosso modo, 2 hectares avec nos modes de production en rouge. On va être à 30 hectos environ hectares. Voilà, je fais pas le calcul.
J'ai aucune idée de ce que ça veut dire 30 hectares. Mais tu vois, tu m'as mélangé
du
No Limit avec du GBS.
Mais t'en avais plus, t'avais fini.
Mais non, j'avais
mais
dit.
Si, ah,
le GBS, c'est une autre histoire. Le GBS, c'est anecdotique, c'est encore une autre histoire. Donc, on a été provoqués, les Gaillacois, sur leur terrain. J'ai un ami en bio qui vendange la machine. Et en 2014, il m'avait dit « Tu passeras derrière la machine pour ramasser mon brocol. » Pourquoi ? En 2014, le millésime était hyper sain. On a eu une belle saison.
C'est chouette.
Et nous avons ramassé les plus belles grappes qui étaient tombées au sol, quasiment. Donc une maturité parfaite, avec un potentiel magnifique. Que la machine à vendanger n'a pas pu attraper. Donc nous sommes passés comme des petits rats derrière.
Clac-clac.
Et nous avons fait notre
barrique. Vous avez glané.
Le glanage qui est un droit sur le territoire français. C'est-à-dire que dès qu'une machine à récolter est passée, toute personne peut aller ramasser ce que la machine a laissé.
Moi, je le fais pour les noisettes à la vite.
Exactement.
Moi, je le fais pour les pommes en allant du côté de Castelsaïra.
Et donc, un conseil, les gars, arrêtez de vous faire chier et de vous faire chier à bosser dans la vigne. Allez choper des vignerons qui bossent bien et qui vendent à la machine. Allez glaner derrière eux.
Allez glaner derrière.
Parce que je me suis rendu compte, figurez-vous, que une année de travail dans les vignes... c'est égal à 2 après-midi de glanage. Donc encore une leçon de vie. C'est malheureux. Nous avons pu sortir ce breuvage pour défier les Gaillacois, puisque moi je suis en Quercy, mais j'aime bien le brocol ou faire Cervadou.
Le nez du brocol est terrible là-dessus.
Le nez du brocol est poussé là à l'extrême. Nous n'avons aucun mérite. Hein. C'est comme j'ai dit au début, c'est le raisin qui parle. Nous avons eu un millésime exceptionnel, une maturité exceptionnelle. On l'a ramassé très tard et on n'avait pas de tri à faire.
Combien ça coûte un GBS?
Donc parfait. Un GBS, écoutez, là je n'ai pas les... Chez moi c'est 8 euros.
Eh ben voilà.
Départ propriété.
Donc c'est 8 euros.
Après, les vendeurs, ce qu'ils en font.
Ils le no-limit,
ils font ce qu'ils veulent. Pareil. Vous savez, c'est très difficile de donner un prix à ces vins. Il y a tellement... Bon, le travail, c'est tout le même pour tout le monde dans les vignes. Hein. Je veux dire, mais après, il y a tellement, comme tu me disais, pile ou face, il y a tellement de prises de risque. Alors, quand on réussit quelque chose, on n'est pas Romane Conti, on n'a pas de nom. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le prix des vins, quoi? C'est un point sur lequel je voulais...
C'est vrai que souvent, nous, on a fait le prix de vin autour de la table.
On a fait les prix de vin en buvant un coup.
En buvant un coup, et en se tapant dans la main.
Et voilà. Allez, et on a tapé comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 8 euros, 6,50 euros, 8,50, 9 euros. Il y a des gens qui sont prêts à boire des merdes. Des bières industrielles en terrasse, là, ça les emmerde pas de laisser 10 euros pour boire 4 Heineken ou autre. Non, j'ai pas le droit de citer de marque, je m'en fous. Je veux dire, mais bière industrielle, voilà. Quel est le budget possible pour un amateur de vin, je veux dire, qui permet de faire croire aux vignerons qui, voilà, je veux dire, qu'on peut avoir un espoir de vivre décemment de son travail. C'est un budget plaisir, on est hors norme. Donc après, on a des copains qui aiment bien boire, qui ont pas d'argent. Donc on fait un effort. Mais oui.
C'est souvent les mêmes.
Souvent les mêmes. Après, on arrose bien.
J'adore. On a des copains qui aiment bien boire et qui ont pas d'argent.
Et c'est magnifique. Et tant mieux.
est-ce que Pierre, tu pourrais bien me faire un petit bout de pâté ou de quelque chose pendant que Pascal Olivier fait sa chronique?
Oh, moi j'avais un petit sondage qui rejoint un peu tout ça. C'est un sondage qui a été réalisé en février 2016 auprès de 1561 personnes de plus de 18 ans. 25% des consommateurs interrogés déclarent ne plus faire confiance aux produits de la grande distribution. On commence à avoir...
Que maintenant.
Oui, voilà, ça commence. Que maintenant, mais enfin... Oh là là, bon déjà, le coût des lasagnes, le coût des... etc. etc.
Mais revenez voir les paysans et discuter, voilà. Il y en a marre quand on voit ce que les gens poussent dans les caddies.
Mais 54% des sondés préfèrent acheter des fruits, des légumes et de la viande à des petits producteurs identifiés. Donc sur ces 1561 personnes, 54%, donc la moitié, veulent acheter, préfèrent acheter des fruits, des légumes et de la viande à des producteurs identifiés plutôt qu'en grande, en grande distribution. 67% de ces consommateurs sondés disent préférer acheter des aliments de base à cuisiner plutôt que des aliments tout préparés. Là encore, une répercussion. Merci. Des lasagnes de cheval, des produits. Voilà, on sait aujourd'hui que ça peut se reproduire puisque la législation n'impose pas l'origine des produits dans les plats cuisinés. Donc demain, il peut y avoir très bien encore des lasagnes de cheval ou d'hommes. Hein. On peut très bien les EHPAD peuvent filer des vieux pour faire des lasagnes. Soleil vert, ça peut se reproduire, ça peut arriver aujourd'hui. Alors les labels, est-ce que les labels inspirent confiance? Oui, le label rouge, c'est le premier label pour 3 personnes sur 5 sondées. Le label rouge est un gage de confiance. Après arrive le label bio. C'est quand même pas mal, hein, même si le label bio est quand même un petit peu galvaudé.
Le label bio est rassurant pour certains consommateurs, mais il faudrait pas confondre avec la pharmacie, quoi.
Voilà, bio
et bio. Le label bio n'est pas la croix verte.
Voilà. Et ensuite,
c'est une
conviction.
Il faut soutenir des producteurs.
Et ensuite, le label de Cadix, il arrive en combien?
Et le label de Cadix arrive en 4e position. Hein, mais après, juste avant, en 3e position, on a le label Viande de France, qui apparemment est pas trop mal, voilà. Donc, sondage réalisé en février 2016 auprès de 1561 personnes de plus de 18 ans. Ça laisse la porte ouverte à pas mal de choses. Bon, ça commence à bouger un petit peu.
Et nous aussi, sûrement dans le même style de sondage, les chariots ont sérieusement diminué.
Bien entendu.
On est passé, avant c'était 60%, 61% des achats, et on est passé à 44%. Les chariots ne représentent plus que 40%
de
la consommation du foyer.
La partie alimentaire.
Et la partie alimentaire, complètement.
Ouais, la partie alimentaire est en train de se casser la gueule.
Complètement.
Trop de... Bien entendu, les paysans sont vraiment responsables de ça. La semaine dernière, samedi dernier, a été bloqué les centres Leclerc ici, à Montauban. Il y en a eu partout en France. Bon, de plus en plus, la grande distribution est pointée du doigt dans le prix des produits, la non-traçabilité des produits, l'origine des produits, bien entendu, ne pas acheter en local, etc.
Il faut dire aussi que dans toutes les campagnes, les épiceries se réouvrent, des petites supérettes, petits supermarchés sont à proximité. Et on n'a pas, parce qu'aller sur un hypermarché, poser sa voiture, prendre un caddie, rentrer, sortir, faire d'achat, il y en a déjà pour demi-heure. Alors que dans une édition de campagne, tu rentres tout de
suite. Ou un commerce local.
De proximité, quoi.
Un commerce local.
Je pense honnêtement que Leclerc ne veut pas être à fait les grandes surfaces. Vous n'allez pas avoir comme sponsor les grandes surfaces.
Mais on s'en fout.
On les a pas.
Mais on s'en fout. De toute façon, on les a pas. Mais
si on les a eu,
Et c'est surtout, il faut savoir quand même qu'une chose, c'est que quand ils sont marchés au plateau ou place à la Lac, parce que moi je les fais les deux toutes les semaines.
Alors attention, quand on parle à Miruténois du marché au plateau place à la Lac, on parle d'un marché qui est situé à Montauban le samedi sur les allées des platanes, qui est le marché des producteurs.
Pardon, oui, des Ruténois. Et si on cherche un peu de ça, c'est vraiment pas plus cher que.
C'est beaucoup moins cher.
Et il y a des fruits de saison. Il n'y a pas des fraises. Ah, ouais. Y a pas des fraises à janvier, des radis noirs au mois de juillet.
Bien sûr, acheter de la saisonnalité, aller voir les producteurs. Philippe, ça suffit ce cirque.
Tu es agriculteur, paysan, en polyculture. Tu fais pas que de la vigne. Donc, est-ce que tu as un jardin? Est-ce que tu es presque autosuffisant? Est-ce que tu achètes beaucoup de choses?
On va dire que je deviens de plus en plus fainéant avec l'âge. Je sélectionne en tout cas mes produits avec... On fait le marché Noctambio à Gaillac, qui est un marché Nature et Progrès. où on troque avec nos collègues en excellent les jardins de la Capelle qui sont situés où sans une... Moi, je ne sais plus.
Donc vous faites du troc.
Voilà, on fait du troc. Le troc, c'est un bon système entre nous, les collègues paysans, quoi. Voilà. Hein. Évidemment, nous, on peut pas être partout. Hein. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est plus sur un mode de vie paysan d'autrefois, où il y avait une ferme en autarcie. Bon, moi, je l'ai eu pendant 15 ans, par chance.
T'as vécu en autarcie?
On a vécu en totale autarcie.
C'est vrai.
On a acheté le sel.
Le sel, comme disait le sel. Nous avions tout.
L'élevage, mouton, cochon, canard, gras, poulet, pintade, les œufs. Donc
les légumes, les
voilà.
Fruits.
Le pain. On achetait le pain. Excusez-moi, on faisait pas le pain. Voilà, voilà.
Feignant,
oui, parce que bon, le pain demande une logistique, le four, une technique, voilà, après c'est d'autres choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce truc est réalisable, j'encourage tout le monde à aller vers ça, vers l'autarcie. De toute façon, nous redeviendrons tous paysans, à l'heure actuelle, je ne vois pas d'autre solution pour l'humanité.
J'invite tout le monde d'ailleurs pour en revenir à une interview qu'on a fait cette semaine, un petit dossier sur les éditions Hippipip, YPYPYP, qui sont faits par des passionnés qui proposent de faire des fiches pratiques pour vivre en autonomie, construire sa maison, faire son jardin, etc. C'est en podcast sur notre site cfmradio.fr. C'est la fin de ce Qu'est-ce qu'on déguste?
C'est déjà la fin.
Ben ouais.
Ah zut. Ben nous, on n'a toujours pas fini les bouteilles.
Remarque que la fin, il en reste pas beaucoup.
La fin est proche. Il reste pas grand chose.
Nous avons donc tout dégusté avec plaisir. Hein, ce brocol pour finir sur des notes, sur des belles notes de fruits, là.
Ouais.
Délicieux.
J'aime beaucoup. Ouais.
Donc, il y en a comme une bouteille.
Non, c'est fini.
Peu de bouteilles, pressez-vous au portillon.
Voilà, il y aura ce qu'il y aura.
On les boit.
Il s'appelle Philippe Kuhn. Le chai est situé à Vaour, place du Coq. Sinon, pour trouver ces bouteilles, c'est soit chez Pierre Cantegrel au Faubourg 73, soit chez Coxibio à Montauban. Merci tout le monde, à la semaine prochaine.
Salut.
Merci.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Vous retrouverez cette émission en podcast sur cfmradio.fr dans quelques minutes et rediffusion demain à midi. Vous écoutez CFM, il est tout juste 19h. Belle soirée.